Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, cette fête du Christ-Roi revêt une importance toute particulière, surtout aujourd'hui alors que le monde entier, je dirais, s'attaque au Christ-Roi pour empêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas le titre du dogme de foi établi par le pape Pie XI en 1925. Ce dogme était toujours cru, mais a été établi en tant que dogme en 1925. Deux choses, notre Seigneur Jésus-Christ est roi, deuxième chose, il est roi de la société. Alors, le premier, je ne gêne pas trop les gens, à condition qu'on leur dise que notre Seigneur Jésus-Christ est roi au ciel, ça ne gêne personne. Par contre, quand on leur dit qu'il est roi ici-bas, dans cette société, alors là, ils commencent à sérieusement se poser des problèmes et ils commencent immédiatement à lutter contre ce règne social. Et je répète rapidement ce que j'ai un petit peu expliqué il y a 15 jours. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est-il roi? N'oubliez pas que le pape Pie XI, dans sa magnifique encyclique, Quas Primas, donne deux raisons. La première des raisons, il dit, c'est parce qu'il est créateur. En tant que créateur, par nature, évidemment, notre Seigneur est créateur de tous les hommes. Et à cause de ce pouvoir par nature qu'il a sur les hommes, eh bien évidemment, il est roi de tous les hommes. Quand on dit que roi, notre Seigneur Jésus-Christ est roi de tous les hommes, ça veut dire qu'il est roi de nos intelligences, attention. Qu'il est roi de nos volontés, qu'il est roi de nos cœurs. Il est roi de nos cœurs, roi de nos intelligences, roi de nos volontés, parce que c'est lui qui a littéralement fabriqué ses cœurs, fabriqué ses intelligences, fabriqué ses volontés. Quand un ingénieur fabrique une machine, il donne un mode d'emploi pour la machine qu'il a fabriquée. De la même façon, le bon Dieu, en tant que roi, a le droit de nous donner un mode d'emploi pour notre cœur, un mode d'emploi pour notre intelligence, un mode d'emploi pour notre volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec son cœur, son intelligence, sa volonté. Je pense qu'un des crimes les plus graves qu'on puisse commettre contre le bon Dieu, c'est refuser, par exemple, d'utiliser son intelligence pour découvrir le vrai qui est l'objet formel de cette intelligence. Le bon Dieu nous a donné l'intelligence pour découvrir le vrai. Quelqu'un qui refuse de découvrir le vrai avec son intelligence, c'est quelqu'un tout simplement qui refuse d'agir comme homme. Alors il faut demander justement cette fuite d'actuelle du Christ-Roi, la compréhension de toutes ces choses qui sont tellement importantes. La deuxième raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est roi, dit le pape Pie XI, c'est qu'il est roi par droit de conquête. Notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix et par sa mort sur la croix, il nous rouvre les portes du paradis, à condition bien sûr que nous acceptions d'utiliser les grâces de la croix, les grâces de la passion. Personne ne peut être sauvé sans ces grâces de la passion, parce que personne ne peut être sauvé sans le bon Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a donc qu'un seul chemin de salut. Voilà pourquoi le monde moderne a une telle haine contre la fête du Christ-Roi. La fête du Christ-Roi a été poussée même complètement par l'Église moderne à la fin complètement de l'année liturgique, pour faire croire justement que notre Seigneur Jésus-Christ ne sera roi qu'à la fin des temps. Non, notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi ici-bas, mes bien chers frères. Et n'oublions pas, comme je vous l'ai déjà expliqué, que puisque la nature a horreur du vide, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi ici-bas, eh bien, quelqu'un d'autre va venir vite prendre la place, et ce quelqu'un d'autre, c'est le démon lui-même. Les conséquences de la fête du Christ-Roi sont énormes. Il y en a deux principales. La première, je vous en ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas. Je vous en ai parlé il y a 15 jours. Je vais surtout vous parler de la deuxième conséquence. La première conséquence, c'est que l'Église et l'État doivent être unis, de même qu'un corps et une âme doivent être unis. Si le corps n'est pas uni à son âme, évidemment, ce corps devient un cadavre. De la même façon, l'Église et l'État doivent être unis parce que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire en matière de politique. Je ne reviens pas, j'ai déjà expliqué ça il y a 15 jours. Aujourd'hui, je voudrais venir davantage expliquer la deuxième conséquence. Deuxième conséquence, c'est puisque notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos intelligences et de nos cœurs et de nos volontés, et nous n'avons pas le droit d'utiliser notre conscience comme nous le désirons. C'est une erreur totalement fausse du monde moderne, ils appellent ça la liberté de conscience. La liberté de conscience, pour les ennemis de l'Église, vient directement des droits de l'homme. Ils considèrent que puisque l'homme a des droits, l'homme devient Dieu et a ses propres droits, et donc puisque l'homme devient Dieu, il a le droit d'avoir sa propre conscience. Le problème, c'est que l'homme n'est pas Dieu, l'homme n'est pas roi, mes bien chers frères. L'homme n'étant ni roi ni Dieu, l'homme doit suivre la conscience du bon Dieu, pas la sienne propre. Ce n'est pas l'homme qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle mon Dieu nous a donné une loi, la loi des 10 commandements. Et par cette loi des 10 commandements, il nous indique ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tu adoreras un seul Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, il était très important, mes bien chers frères, de comprendre pourquoi l'Église catholique a toujours condamné la liberté de conscience. Le texte le plus important à bien connaître est certainement le texte, à mon avis, le plus important des deux derniers siècles dans le magistère traditionnel de l'Église, c'est le texte de Quanta Cura, du pape Pie IX. Le pape Pie IX, c'est vraiment un des plus grands papes de l'histoire de l'Église, il a régné plus de 40 ans. Le pape Pie IX, en 1864, a condamné solennellement la liberté de conscience. Il a dit que cette liberté de conscience est une liberté de perdition, une insanité, une folie, si vous voulez. Vous voyez, on voit très bien ici à quel point l'enseignement traditionnel de l'Église, je dirais, s'oppose diamétralement à l'enseignement du monde moderne. Pourquoi ? Parce que le monde moderne veut adorer l'homme, l'Église catholique veut adorer Dieu. Le monde moderne veut suivre les droits de l'homme, le monde de la foi catholique veut suivre les droits de Dieu. Donc entre les droits de Dieu et les droits de l'homme, il y a évidemment une contradiction totale, complète. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Voilà pourquoi le pape Pie IX a condamné la liberté de conscience. Et malheureusement, ces fausses idées de liberté de conscience sont tellement, je dirais, tellement entrées dans les mœurs que même aujourd'hui, on a parfois des catholiques qui nous disent, même sur l'abbé, il n'est pas mauvais d'avoir une liberté de conscience. Encore une fois, le pape Pie IX dit c'est une liberté de perdition, une insanité. Nous n'avons pas de liberté de conscience. Nous avons le libre arbitre pour choisir là où il faut aller. Malheureusement, quelqu'un peut, utilisant sa conscience, refuser de suivre le bon Dieu. Mais ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien, ce qui est mal. Le bon Dieu a déjà fait cela pour nous. Et ces fausses idées de liberté de conscience, mes bien chers frères, remontent à très loin, c'est une vieille histoire. Ça remonte au début de l'histoire du monde. Vous savez que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur avait donné une loi aussi. Là encore une fois, il n'a pas respecté leur conscience. Il leur a pas dit, vous faites ce que vous voulez dans mon jardin. Il leur a dit, dans le jardin d'Éden, vous pouvez manger tous les fruits, mais vous ne pouvez pas toucher le fruit de l'arbre, de l'arbre du bien et du mal. Et trompés par le démon, Adam et Ève ont croqué le fruit défendu. Et ce fruit défendu, c'était le fruit de la liberté. Trouvant leur liberté, ils ont évidemment tout perdu. Parce que la liberté est un fruit bien empoisonné. Et comment le démon a-t-il réussi à rouler dans la farine Adam et Ève ? Justement, il leur a fait miroiter cette liberté de conscience. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? N'oubliez jamais ces quatre mensonges du démon qui sont répétés à longueur de journée par les médias aujourd'hui. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et parce que vous devenez comme des dieux, vous aurez le droit de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu leur avait dit, je décide ce qui est bien, je décide ce qui est mal, je décide ce que vous pouvez manger, et je décide ce que vous ne pouvez pas manger, je décide ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Le démon leur a dit, si vous mangez de ce fruit défendu, vous deviendrez comme des dieux et devenant comme des dieux, c'est le panthéisme, devenant comme des dieux, vous pourrez décider par vous-même ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, manger ou ne pas manger, décider ou ne pas décider. Et évidemment, trompés par le démon, Adam et Ève ont croqué le fruit défendu, regardez les conséquences, elles sont énormes. Les conséquences de la liberté de conscience, parce que c'est ça la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est quoi ? C'est se prendre pour Dieu et s'établissant comme Dieu, vous deviendrez comme des dieux. À ce moment-là, puisqu'on est Dieu, effectivement, Dieu a le droit de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Donc si l'homme devient Dieu, oui, il a le droit de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'homme ne peut pas devenir Dieu. L'homme ne pouvant pas devenir Dieu, il est évident que l'homme ne peut pas décider ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu décide pour lui. L'homme a une conscience, attention. Et avec cette conscience, ils doivent simplement s'obliger, en l'utilisant correctement son intelligence et sa volonté, ils doivent s'obliger à suivre la conscience divine. Donc loin de nous, mes bien chers frères, ces fausses idées de liberté de conscience. Il ne faut pas s'imaginer que chacun peut suivre sa conscience et que le jour un catholique va mourir et va être jugé d'après sa conscience à lui, ou la conscience divine, et que si un musulman meurt, il sera jugé sur la conscience d'un musulman et la conscience de Mahomet, et que si un bouddhiste meurt, il sera jugé sur sa conscience et la conscience du bouddhisme. C'est totalement faux. Qu'on soit catholique, musulman, bouddhiste ou n'importe quoi, le jour où nous serons jugés, parce que nous mourrons tous, le jour où nous paraîtrons devant le bon Dieu, parce que nous paraîtrons tous devant le bon Dieu, nous serons jugés d'après la conscience divine. Dieu va mettre devant nous ses 10 commandements et nous demandera, est-ce que vous étiez fidèle à ses commandements, non pas à votre volonté, non pas à votre conscience propre. Oui, bien cher frère, ce qu'il nous faut comprendre, ce ne sont pas des choses faciles à comprendre, mais elles sont absolument nécessaires. Pourquoi ces choses sont-elles rejetées dans le monde moderne? Parce que, encore une fois, le monde moderne est un monde basé sur l'orgueil. À quoi a mené la liberté de conscience? La liberté de conscience d'Adam et que Adam et Ève ont voulu s'approprier en quelque sorte, en la volant au bon Dieu, cette liberté de conscience, c'est celle qui a amené le démon à dire « Non serviam, je ne servirai pas ». Et parce que justement le démon a refusé de servir, il s'est fait rejeter du paradis. Donc vous avez deux choses, ou la liberté de conscience de l'homme, c'est « Non serviam, je ne servirai pas », ou c'est la liberté de conscience de Dieu. On essaie de mettre en nos cœurs la liberté de conscience que le bon Dieu nous donne, nous offre, et à ce moment-là, c'est le fiat mihi secundum verbum tuum, la très sainte Vierge Marie. Soit c'est l'orgueil du monde moderne, soit c'est l'humilité de la très sainte Vierge Marie. Et c'est pour cela que le bon Dieu, dès le début, dès qu'il a dû punir très fortement Adam et Ève pour leur transgression, c'est pour cela que déjà il leur annonce l'arrivée du Messie par celle qui va pratiquer l'humilité. La liberté de conscience de l'homme, c'est l'acte de l'homme qui se révolte contre Dieu. Je ne servirai pas. Pour détruire cette conséquence de la liberté de conscience, la perte du ciel, Dieu va aller chercher l'humilité de notre Sainte Vierge Marie. Celle qui va avoir le courage de dire à l'ange Gabriel qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Non pas selon ma volonté, mais selon votre parole à vous. Oui, mes chers frères, ce qu'il nous faut demander, il nous faut demander avec beaucoup d'humilité. Il faut demander toutes ces grâces, ces compréhensions tellement importantes. Quand dans le monde moderne, même parmi les catholiques, on explique que la liberté de conscience est condamnée par l'Église, on voit très bien une réaction très violente parfois même de nos fidèles, qui ne comprennent pas ces choses-là. Ils ont l'impression que la liberté de conscience est un acquis de la Révolution et qu'il faut donc garder ces acquis pour pouvoir trouver la liberté. Ils ne comprennent pas que justement la liberté de conscience est une fausse liberté et que l'usage de cette liberté de conscience entraîne l'esclavage. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dehors. On voit très bien que l'homme retombe dans son esclavage, l'esclavage dans lequel il était auparavant, avant l'arrivée de notre Seigneur. Je pense qu'un détail, c'est un exemple, un détail qui en dit long. Regardez l'esclavage dans lequel sont retombées les femmes. La plupart des femmes modernes sont redevenues des esclaves. Les femmes étaient esclaves avant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé et par sa très sainte mère, par l'exemple de sa très sainte mère et sa mort sur la croix, il a détruit l'esclavage de la femme. En expliquant aux hommes que la femme n'était pas un objet, que la femme avait sa dignité de mère et sa dignité de femme. Et pendant des siècles et des siècles, l'Église catholique, en utilisant justement l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, en utilisant aussi tous les principes de la chevalerie, a rendu la dignité à la femme, avec un grand F. Aujourd'hui, on voit très bien aujourd'hui partout qu'au nom de la liberté de conscience, la femme est de nouveau esclave et considérée de nouveau dans le monde moderne comme un simple objet de plaisir. On l'utilise quand on n'a plus besoin, on jette et on met à la poubelle. En gros, c'est ça la femme moderne. Et voilà, mes chers frères, ce que vous devez refuser catégoriquement. Vous devez refuser catégoriquement d'être traité comme des esclaves par ceux qui suivent les principes du monde moderne. Quel est le résultat de la liberté de conscience? Liberté, égalité, fraternité. Quel est le résultat de l'introduction de la liberté de conscience dans les murs même de l'Église catholique? C'est Vatican II. Liberté religieuse, collégialité, écuménisme. La liberté de conscience est donc comme une bombe, si vous voulez, dégoupillée qui a explosé dans l'Église pour détruire complètement tout ce qui se passe dans l'Église. C'est détruire la divinité même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, si nous voulons, avec la grâce du bon Dieu, si nous voulons nous protéger en quelque sorte si nous voulons absolument retrouver le sens du sacré, le sens de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord et avant toute chose éloigner ces deux choses de nos âmes. L'idée que l'Église et l'État doivent être séparés et l'idée que la liberté de conscience est une bonne chose. Si vous laissez la liberté de conscience s'introduire dans votre famille, il n'y a plus d'obéissance de la famille. Si on est obligé d'accepter la liberté de conscience, je peux fermer au confessionnal, il n'y a plus besoin de se confesser. Liberté de conscience dit simplement l'homme devient Dieu pour prendre la place de Dieu. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons avec beaucoup de constance. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner justement cette humilité qu'elle a eue. N'oublions pas que la conséquence du péché originel a été justement de détruire l'orgueil de l'homme moderne. L'homme moderne s'est dressé contre Dieu, l'homme tout simplement s'est dressé contre Dieu par le péché originel d'Adam et Ève. Les résultats, donc il a dû justement perdre toute liberté. L'homme est devenu un esclave. Et on le voit très bien par les conséquences du péché originel, tant pour l'homme que pour la femme. Avant le péché originel, Adam et Ève avaient liberté, la véritable liberté dans le paradis terrestre. Après l'introduction du péché originel, c'est l'esclavage qui arrive. Pour l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Pour la femme, tu enfanteras dans la douleur et tu seras tout sous l'autorité de ton mari. C'est ça l'esclavage. Et qui peut nous libérer de cet esclavage? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, en mourant sur la croix, c'est la très sainte Vierge Marie qui accepte par humilité, avec grande humilité, de devenir la mère du Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa mort sur la croix, sa résurrection le jour de Pâques, va justement nous libérer de cet esclavage et nous rendre la véritable liberté. La véritable liberté, c'est quoi? La véritable liberté, c'est pas le droit de faire ce qu'on veut. Ça, c'est pas la liberté, c'est la licence. La liberté, c'est le choix que nous avons, le pouvoir que nous avons de choisir le meilleur chemin pour atteindre la fin qui nous est donnée. Quelle est la fin de notre vie? On n'est pas libre de choisir notre fin. On n'est pas libre de choisir le but de notre vie, que ça nous plaise ou non. Nous avons été créés par Dieu, que ça nous plaise ou non. Nous devons atteindre Dieu pour pouvoir être sauvés. Le choix que nous avons, c'est le chemin pour aller à cette fin. Voilà la véritable liberté. Dans la mesure où l'homme accepte de se soumettre à la loi divine, il reprend le chemin qui le mène à Dieu, il détruit d'une certaine façon les conséquences du péché originel et retrouve sa liberté, la véritable liberté. Il n'y a pas de vraie liberté sans notre Seigneur Jésus-Christ et sans notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Nous demandons à notre Seigneur Jésus Marie, mes bien chers frères, de nous donner cette humilité qu'elle avait. La très sainte Vierge Marie avait cette extraordinaire humilité. Elle a compris tout de suite qu'en devenant la mère de Dieu, elle allait devoir porter la croix parce qu'elle allait devoir devenir co-rédemptrice du genre humain. Elle a compris, elle a accepté, malgré toutes ses croix, elle a accepté de porter la croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous aussi nous devons faire, mes chers frères. Nous aussi nous devons porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir, avec sa grâce, un jour arriver au ciel. C'est ce que le bon Dieu nous demande, c'est ce que le bon Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, un jour qu'on puisse tous se retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.